Monsieur Pierre Fével, bonjour, merci d'être parmi nous.
Bonjour.
Alors vous êtes donc là cet après-midi pour nous présenter le livre qui s'intitule « L'alchimiste des ombres » et qui est le tome 2 des Lames du Cardinal, paru chez Bragelonne. Alors tout d'abord, je dois vous dire qu'en le lisant, j'ai vraiment ressenti vraiment énormément de plaisir à la lecture et que pour moi, ça m'a vraiment rappelé mes grandes lectures des romans d'Alexandre Dumas, des grands romans feuilletons, des choses comme ça. Donc déjà, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Et alors, je voulais, est-ce que vous pouvez, est-ce qu'on peut intervertir les rôles? Est-ce que vous pouvez nous vendre votre livre et faire le boulot de libraire pendant 3 minutes et nous dire en quoi on doit lire ce livre?
Alors, vous le vendre, je ne sais pas si je vais pouvoir faire ça, je peux vous en parler, vous le décrire. Donc, comme vous l'avez dit, l'alchimiste des ombres est le second tome d'une série entamée avec Les Lames du Cardinal. Les Lames du Cardinal, c'est un roman qui se déroule, c'est d'abord un roman de KPDP qui se déroule au début du XVIIe siècle, en France, plus particulièrement à Paris. Le début du XVIIe siècle, là on est en 1630, c'est l'époque des Trois Mousquetaires, du cardinal de Richelieu, de Louis XIII, bref, des personnages qu'Alexandre Dumas a rendus célèbres bien avant moi. Dans ce contexte, les Lames du Cardinal, qui donnent leur nom au premier volume, sont un groupe d'aventuriers, d'espions, aujourd'hui on dirait que ce sont des barbouzes, qui travaillent sur les ordres directs du cardinal de Richelieu, qui est plus ou moins le premier ministre de la France à l'époque, et qui accomplissent pour lui des missions, poliment on appelle ça de la diplomatie parallèle, ça peut aussi s'appeler des coups de main, des assassinats, des enlèvements, tout ça pour la raison d'État, qui n'est pas toujours morale. Le contexte historique est rigoureux, c'est une période que j'aime bien, je me suis assez documenté, donc ce que je décris est dans la mesure du possible réaliste, véritable, avéré. À ceci près, c'est que j'ai introduit une petite dose de surnaturel, en l'espèce des dragons. J'ai imaginé que cette race avait existé jadis sur Terre, qu'elle y avait régné, et puis que son époque étant révolue, elle avait lentement décliné pour céder la place aux hommes, mais que tous les dragons ne s'étaient pas éteints, que la race ne s'était pas éteinte, tous les dragons n'avaient pas disparu, et que certains, pour assurer leur survie, grâce à la magie, ont pris apparence humaine, et ils vivent désormais ça veut dire en 1633, cachés parmi les hommes, et tous ne sont pas animés de bonnes intentions. Et mes lames du cardinal sont plus particulièrement chargées de lutter contre ce qu'on pourrait appeler la menace draconique qui pèse contre le royaume de France. Voilà.
Eh ben d'accord. À la lecture de votre livre, comme dans, je trouve, dans tous les bons romans, on garde vraiment des images, des odeurs, des sons en tête, donc vraiment le son des sabots des chevaux sur les pavés de Paris, des choses comme ça. Quelles sont pour vous vos scènes favorites dans Les Lames du Cardinal ?
Mes scènes favorites, je ne sais pas si j'aurais vraiment des scènes favorites. Par contre, il y a un personnage qui est très important, auquel je tiens beaucoup, c'est Paris. D'ailleurs, je considère que le Paris de l'époque, je le traite presque comme un personnage à part entière. Je prends beaucoup de plaisir à le mettre en scène, à essayer de le faire revivre, à reconstruire sa réalité. Par moments, c'est un Paris qui, géographiquement ou d'un point de vue des toponymes, n'est pas si éloigné que ça d'une autre, de celui d'aujourd'hui. Sinon, il est extrêmement exotique par d'autres aspects, en particulier par la crasse qui y règne, et la puanteur permanente qu'on y respire. Il y a des aspects extrêmement baroques dans cette ville qui me charme. Mais en fait, mon goût pour le Paris de cette époque, de l'époque de Louis XIII, date de bien avant que j'ai entamé, ne serait-ce que j'ai envisagé d'écrire Les Lames du Cardinal. C'est une passion qui m'est propre et là qui m'a rendu bien service.
Mais justement, pourquoi avoir choisi Paris et pourquoi avoir choisi cette époque? Il y a quand même énormément d'autres capitales ou d'autres villes ou d'autres époques qui ont une histoire très chargée. Donc pourquoi avoir choisi Paris et cette époque?
Bon, c'est sans doute parce que je suis français. Si j'avais été anglais, j'aurais pris Londres. Allemand, j'aurais pris Berlin. En plus, il faut reconnaître que à cette époque, Paris est vraiment une des plus grandes villes d'Europe, si ce n'est la plus grande. Il doit y avoir Londres qui doit pas être loin devant ou loin derrière. Mais en nombre d'âmes, on atteint les 500 000 habitants, ce qui est énorme pour l'époque. Donc Paris est véritablement une métropole. En plus, l'importance que la France avait sur l'échiquier politique à l'époque est de loin supérieure à celle qu'elle a maintenant. Donc non, tout était parfait. Paris se prêtait particulièrement bien à devenir le décor de mon bouquin. J'ajoute que j'ai fait des recherches historiques assez importantes, que je peux les faire en français, qu'à la limite je peux les faire en anglais, mais que dans une autre langue ça m'aurait été impossible. Et comme j'ai plus de facilité pour aller fouiller les fonds de bibliothèque à Nancy ou du moins en France à Paris plutôt qu'à Londres, tout tout se réunit, tous les avantages se réunissent pour que ce soit Paris plutôt qu'une autre. Et puis Paris sera toujours Paris. Tout le monde connaît Paris, partout dans le globe.
C'est clair. Et donc, justement, vous insistez beaucoup sur le côté historique et sur le côté très documenté. Quelle a été pour vous la partie la plus difficile à écrire dans le livre ? Est-ce que c'est la partie historique ou vraiment la partie romanesque ?
Alors finalement, la partie historique, pour ce qui est de la peinture du Paris de l'époque, grosso modo, comme toutes les recherches, je les avais faites avant, j'ai pris des fiches, c'est un Paris qui m'est devenu extrêmement familier. Alors j'ai encore plein de choses à y découvrir, hein, je me fais pas d'illusions, et j'ai peut-être introduit quelques erreurs, bien malgré moi. Pour ce qui est de décrire Paris, je me permets d'inventer que quand j'ai vraiment pas trouvé de documents, quoi. Sinon, on a des chroniques de l'époque, ou des ouvrages d'historiens, même du XXe siècle, mais bien oubliés aujourd'hui, qui sont beaucoup consacrés à l'époque et au Paris de ce début du XVIIe siècle. Donc, c'est pas ce qu'il y a de plus difficile. Ce qu'il y a, ce à quoi je veille, c'est que j'essaie de pas être ennuyeux avec les descriptions de Paris. Je veux pas que ça se ressemble ni à un guide touristique de l'époque, ni à un cours d'histoire sur voilà pourquoi, comment c'était fait, etc. Il y a des moments, il n'est pas nécessaire, même si je sais un point historique sur un bâtiment célèbre. Si ça n'a aucun intérêt dans le cours du récit, j'en parle pas. Qu'est-ce qu'il importe de savoir quand est-ce que l'église Saint-Eustache a été inaugurée finalement, ça a peu d'intérêt pour le roman. Si ça peut d'intérêt pour le roman, je ne le mets pas, quoi. J'essaye que les descriptions aient un sens dans le cours du récit. C'est avant tout un roman.
D'accord. Et donc, on en est maintenant au tome 2. Le premier tome a quand même connu un succès assez important. Et on dit souvent qu'il est plus difficile, plus compliqué d'écrire une suite parce qu'il y a toujours une certaine pression, que ça soit tant sur les personnages que sur l'histoire, une certaine attente. Est-ce que ça l'a été pour vous plus difficile ?
Ah oui, un deuxième tome, c'est tout. Enfin, je peux parler que pour moi, mais pour moi, c'est toujours plus difficile. Bon, ceci dit, j'essaye de me faciliter les choses, c'est-à-dire que lorsque j'élabore l'univers, les personnages, les intrigues dès le premier tome, je prévois éventuellement qu'il y aura une suite, donc j'essaye de me construire un univers qui est assez riche pour supporter des suites. Je déteste les suites qui ont vraiment l'air d'être ajoutées. L'avenir la naissance d'un second tome est quand même conditionnée par le succès du premier, mais j'essaye de prévoir, si tout va bien, il y aura un deuxième tome, donc j'essaye de l'imaginer dès le début. Là où il y a des difficultés, oui, il y a la pression. C'est sûr que quand un premier tome marche, on essaye de faire aussi bien avec le second. Là où c'est un petit peu délicat, c'est que il y a toute une part d'irrationnel dans le succès ou l'échec d'un livre, et parfois on réissue des choses sans l'avoir vraiment fait exprès. Donc on se demande bien comment on peut renouveler l'exploit, vu que la première fois on l'a pas voulu. Donc ça peut mettre une certaine pression. Il y a aussi le fait que lorsqu'on fait un premier tome, on n'a aucune raison de retenir ses chevaux. On peut y aller à fond. Ensuite, on peut aller plus à l'économie. Mais ce que je veux dire, c'est que sur un premier tome, si on a un cadre vraiment intéressant, un endroit, un décor qui nous intéresse vraiment, on peut essayer de le mettre en scène, même pour une scène très anecdotique, parce que il faut qu'on utilise toutes les armes qu'on a à notre disposition pour faire le meilleur livre possible. Donc ensuite, quand on attaque un second tome, c'est beaucoup plus délicat, parce que on se dit, ça c'est chouette comme décor, surtout sur un décor historique. Après tout, des scènes spectaculaires, des scènes au sens de mise en scène, on n'en a pas une quantité illimitée, ça s'épuise. Paris géographiquement illimité, donc ensuite on peut essayer de gérer un peu plus raisonnablement les aspects historiques. Mais dans le premier, on donne tout ce qu'on a, ce qui fait que pour le second, c'est beaucoup plus délicat.
Alors, une question concernant vraiment un aspect assez particulier du roman, parce que ça aurait pu être un roman historique tout à fait, entre guillemets, vraiment sans aucun sens péjoratif, traditionnel. Et vous choisissez d'introduire certaines créatures surnaturelles, vous l'avez dit plus tôt, justement les dragons. Alors pourquoi avoir choisi les dragons alors qu'il existe une pléthore de créatures surnaturelles du côté des méchants, on va dire ça comme ça? Donc pourquoi avoir choisi les dragons?
Les dragons, comme je voulais décrire un univers qui historiquement était le plus réaliste possible, il fallait que j'introduise avec au moins parcimonie ce qui relevait du surnaturel ou du merveilleux. En l'occurrence, ça allait être les dragons, même si au début, j'étais pas particulièrement fixé sur les dragons ou pas. Mais je savais que j'allais pas pouvoir en faire trop, parce que dans un univers où j'aurais mis énormément, les créatures traditionnelles, des orques, des centaures, des faunes, etc., enfin bon, tout le bestiaire, L'équilibre du monde aurait été compromise, l'équilibre du monde historique. Donc pour que mon univers historique reste crédible, il fallait que j'y aille prudemment sur les créatures fantastiques. Donc j'ai décidé de m'intéresser à une seule race, qui allait être, en l'occurrence les dragons, mais je savais que j'allais m'intéresser à une seule race, et éventuellement à la décliner. Et les dragons sont représentent les créatures les plus emblématiques. Et les dragons, donc, sont, pour ce qui est de la fantasy, les créatures les plus emblématiques du genre. La démonstration vaut ce qu'elle vaut, mais si vous mettez un dragon sur une couverture, il est évident que tout de suite c'est identifié fantasy plutôt que autre chose, quoi. Donc, s'il devait y en avoir qu'une de créature, il fallait que ce soit celle-là, quoi. Ça m'est apparu. Et ensuite, je me suis dit que j'allais décliner la race des dragons, la race draconique, en différentes, alors les vivres, vivernes, etc. Mais en me limitant vraiment que à cet aspect-là. En plus, ça renforçait l'idée que je voulais d'avoir la race humaine et la race des dragons qui soient en fait en bisbille, qui se disputent un même univers, un même écosystème, qui en l'occurrence c'est le globe terrestre. Mais en fait, et donc imaginer que les reptiles ont abouti à une race intelligente, de même que les primates l'ont fait avec nous.
Et donc, vous venez d'obtenir le prix des lycéens Imaginel 2009 pour le premier tome. Est-ce que ce prix a une signification particulière pour vous? Est-ce que ça représente quelque chose de particulier pour vous par rapport aux autres prix que vous pouvez avoir obtenus?
C'est le prix qui m'a fait en fait le plus plaisir parce que ça tient aux personnes qui me l'ont remise, en l'occurrence des classes d'élèves, environ 300 élèves de classe de première et de seconde, parce que c'est, y a pas de triche, quoi. C'est un vrai prix sincère. S'ils avaient pas aimé, ils me l'auraient pas donné le prix. Ils ont pas jugé autre chose que le plaisir que leur a apporté le livre. Donc c'est très très agréable pour ça. J'ai eu l'occasion de rencontrer 2-3 classes après qu'on m'ait remis le prix. On a essayé de faire les choses honnêtement. Donc j'ai rencontré 2-3 classes parmi celles qui avaient voté pour l'occasion de ce prix. Et je leur avais dit pourquoi ça m'avait fait plaisir. Et je leur ai dit un peu chose presque que je viens de vous expliquer. Et en argumentant, en leur disant que s'ils avaient été un jury traditionnel, j'aurais sans doute pas reçu le prix. Alors ils m'ont dit, bon, on comprend pas pourquoi. Mais je leur ai dit parce que l'année dernière, le roman qui a reçu ce prix-là était chez mon éditeur. Et il y a de fortes chances qu'un jury normal, responsable, adulte, se serait dit « Oh, ça ferait 2 années de suite les éditions Barjon, c'est peut-être pas une bonne idée. » Et donc ça, c'est typiquement des genres de questionnements qu'un jury lycéen ne se pose pas, et c'est tant mieux. Et vraiment, ça m'a fait extrêmement plaisir. Et puis, ces lycéens que j'ai pu rencontrer après ou qui sont venus me voir lors des séances de dédicace, ils ont une franchise, un aspect ils sont parfois même un peu brutaux tant dans les compliments que dans les critiques négatives, mais au moins c'est sincère, quoi. Et ça, c'est particulièrement agréable. Ils ont des enthousiasmes qui sonnent, ça donne de l'énergie pour écrire 4 tomes à la suite, quoi. C'est vraiment leur enthousiasme vraiment est communicatif.
Justement, une date pour le tome 3 ?
Non. Il faut que je l'écrive. J'y pense très sérieusement. J'ai signé un contrat dernièrement où je crois que je m'engage à le remettre au moins au janvier, le 1er janvier de l'année prochaine. Je crois que même mon éditeur ne se fait pas d'illusions, donc il fallait bien mettre une date. Non, c'est blague à part, je vais essayer de pas trop tarder, parce que c'est bien d'être quand même présent assez régulièrement sur les tables des libraires. Et puis je veux au moins arriver à boucler ça pour éventuellement écrire un autre bouquin, tout à fait autre chose. Donc oui, je vais essayer d'y aller assez vite. En tout cas, je commence à en avoir envie. Ce qui n'est pas le cas le lendemain de la remise du manuscrit, j'ai rarement envie de m'y remettre tout de suite. Il faut un peu de temps. Et là, ça commence à me titiller. Je commence à imaginer des scènes, à revoir des personnages, à avoir envie de décrire telle ou telle chose. Donc en général, c'est bon signe. Il faut que je combatte et que je l'emporte sur ma paresse maladive, puisque je préfère de loin passer du temps avec ma chère et tendre, jouer avec mes chats ou regarder des DVD, hein. Donc, et comme je travaille chez moi, les tentations sont permanentes.
En tout cas, nous, on attend avec impatience de lire la suite et donc le tome 3. Un tout grand merci pour votre présence cet après-midi. Merci d'avoir répondu à mes questions.
Mais c'est moi.
Et voilà, donc maintenant, si vous voulez discuter de façon un peu plus intime avec Monsieur Pével, ben il se fera un plaisir de dédicacer vos ouvrages ou de répondre à vos questions.
Et si on discute, je change de chaise, hein, je vous promets, je reste pas perché là-dessus.
Merci à tous.